Pajar m'a donné comme thème s'offrir au Père avec Jésus dans l'Eucharistie. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui donc c'est la fête de la présentation, le chandeleur. Et pour nous introduire dans notre thème, je pense que le thème on le tient justement de cet évangile. Je vous propose tout simplement d'essayer de comprendre un petit peu mieux cet évangile de la présentation. Je pense que c'est un épisode qu'on connaît assez bien, mais dans l'évangile on va voir c'est pas si simple que ça. Bon. Alors le but du jeu, c'est essayer de mieux comprendre l'évangile pour arriver, nous, à nous offrir mieux aussi avec Jésus, de mieux connaître Jésus et, l'ayant mieux connu, d'arriver à mieux nous offrir. Alors, je vous relis tout simplement l'évangile. Donc, c'est dans le chapitre 2, Saint-Luc, chapitre 2, verset 22. « Lorsque les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout premier-né, mâle, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de pigeonneaux. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint donc au temple, et quand les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard la prescription de la loi, il le prit dans ses bras et bénit Dieu en ces termes. « Tu peux maintenant, maître souverain, laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant doit causer la chute et le relèvement de beaucoup d'hommes en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi, de bien des cœurs vont se dévoiler les pensées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Après sa vie de jeune fille, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Restée veuve et parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle survint à ce moment et se mit à louer Dieu et à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Alors c'est un évangile qui nous est bien connu. Donc la Sainte Famille présente, après la circoncision, présente l'enfant au temple. Et puis ils ont cette rencontre avec Siméon d'abord, et ensuite avec Anne. Puis finalement, retour à Nazareth, où l'enfant grandit. Alors ce qui est marquant quand on lit, quand on regarde un petit peu dans le texte en particulier, c'est... si vous regardez les deux premiers paragraphes, donc des versets 22 à 24 et ensuite de 25 à 28, c'est que d'un côté on insiste beaucoup sur la loi, les parents accomplissent la loi, les prescriptions selon la loi du Seigneur, et puis Siméon, c'est l'Esprit. Il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit était sur lui, etc. Donc on pourrait dire... Dès le début de cet évangile, il y a d'un côté la loi, et c'est même étonnant que ce soit répété comme ça, ça revient 3 fois. Lorsque les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, donc vous savez qu'à cette époque-là, donc il y avait une cérémonie qui marquait en fait le retour de l'accouché dans la communauté croyante. Donc on appelait ça la purification. Il y avait un petit sacrifice. Donc au bout de 40 jours. Il y a ce qu'on appelait les relevailles dans le temps, je crois que ça existait aussi. Il y a aussi le fait de présenter l'enfant au temple, donc on amenait un peu l'enfant solennellement au temple. Et puis l'histoire du rachat des premiers-nés. En fait, c'est cette idée dans la foi qu'on trouve très très souvent, c'est qu'à Dieu, il faut donner les premiers fruits, les premières choses. Hein. C'est à Dieu, on doit tout lui donner, mais en particulier, ce qui commence, ce qui est le début, les premiers fruits. Alors, dans la loi ancienne, donc, il y avait cette offrande des prémices. Donc, je ne sais pas, premier fruit de la vigne, premier fruit d'un arbre, premier fruit de premier enfant, d'un mariage, etc., etc. Donc, cette idée qui est belle, en fait, c'est d'offrir à Dieu tout ce qu'on reçoit de lui. Et donc, pour chacune de ces choses, donc on nous dit c'est selon la loi du Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, donc il y a même des citations donc du livre de l'Exode. Donc, d'un côté, donc, l'insistance sur la loi. Et puis, de l'autre, au contraire, chez Simeon, on insiste sur l'Esprit, et là, ça revient 4 fois. L'Esprit Saint était en lui. C'est fort comme expression, l'Esprit Saint était en lui. Ensuite, il lui avait été révélé par l'Esprit Saint. Donc un don de prophétie ou quelque chose comme ça. Et immédiatement, on pourrait dire un don sur le moment, poussé par l'Esprit, il vint donc au temple. Alors, j'ai annoncé 4 fois, mais j'en vois que 3 finalement. Enfin bon, ce qui est frappant, donc, c'est que d'un côté, on a l'insistance sur la loi, et d'un autre côté, l'Esprit. Ça vous fait penser sans doute quelque chose, surtout qu'on est dans l'Évangile selon Saint Luc, qui est un disciple de Saint Paul. Et en fait, autrement dit, Jésus nous introduit non plus dans la loi, on passe de la loi à l'Esprit. Il ne faut pas s'arrêter aux prescriptions juridiques de la loi de Moïse, mais il faut aller à l'Esprit, l'Esprit du Seigneur. Donc on voit dans cet épisode qui est au début de l'Évangile que il s'agit de cela dès le départ. Hein. L'Esprit supplante la loi. Et on voit, comme dans beaucoup d'épisodes dans l'Évangile de l'enfance, chez Luc, qu'on est à la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, on a un jeune couple, donc Marie et Joseph, même si on dit souvent que Joseph est... Enfin, on pense qu'il était âgé, en fait, on n'en sait rien. Donc, on a un jeune couple, et de l'autre côté, on a des vieillards, vénérables par ailleurs. Hein. Donc, on a Siméon et Anne. Siméon, on nous dit... qu'est-ce qu'on nous dit ? Un homme était juste et pieux, il attendait la consolation, visiblement, ça fait longtemps qu'il attendait. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a Anne, on nous donne son âge, 84 ans. Donc on a aussi un couple, voilà, qui est prophétesse. Et on avait déjà eu le cas dans l'Évangile selon Saint Luc, qu'on avait Marie-Joseph, et puis après on avait Élisabeth et Zacharie. Donc on a des couples qui sont opposés volontairement pour dire il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. On passe de l'ancienne alliance. En même temps, ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils héritent de toute une tradition qui justement ouvre au Christ, sur le Christ. Et en même temps, ben, c'est le passé. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est que c'est Jésus qui en est le centre. Alors, peut-être ça ne se voit pas, parce que d'ailleurs, son nom n'apparaît pas. Mais on voit bien qu'il est au centre. Donc, c'est Joseph et Marie qui apportent l'enfant, c'est Simon qui prend l'enfant. Mais à chaque fois, c'est de cet enfant qu'il s'agit, c'est lui qui est le centre. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Donc, c'est lui, il est le premier-né. Il est la consolation d'Israël. Donc, Siméon attendait la consolation d'Israël. Vous savez, dans la Bible, il y a, dans le prophète Isaïe, au chapitre 40, il y a un passage, ça commence « consoler mon peuple ». Donc, c'est une prophétie, justement, après des temps de malédiction, de malheur, etc. Dieu dit « consoler mon peuple ». Enfin, le Seigneur va venir. Hein. Et c'est très, très fort en consonance avec l'Évangile. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, cette consolation qui avait été annoncée plusieurs centaines d'années avant. Donc, Jésus, il est la consolation d'Israël. Il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Jésus, c'est le Christ du Seigneur, c'est le Messie du Seigneur. Enfin, c'est toujours la même chose. La consolation, c'est justement un nouveau roi va être donné au peuple, voilà, qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Ensuite, il est dit de lui qu'il est le salut pour les peuples. Donc ce sont des expressions très très fortes. Jésus, il est le salut pour les peuples. Et puis, il y en a encore d'autres. Il est lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Donc, vous savez, on est à une époque, donc tout se passe à Jérusalem, au milieu du peuple juif. Donc, il y a les juifs et les autres. Donc, les autres, c'est les peuples, c'est nous. Et puis, les juifs. Donc, c'est Jésus, il est la gloire du peuple Israël et une lumière pour toutes les nations. Et puis après, il nous est dit qu'il est la délivrance de Jérusalem. Anne annonce la délivrance de Jérusalem. Donc voilà, on nous parle de Jésus, donc on nous donne des qualificatifs qui sont très forts, très beaux. Hein. Jésus, il est le premier-né, il est la consolation d'Israël, il est le Christ du Seigneur, il est le salut, la lumière, la gloire, il est la délivrance de Jérusalem. Alors ce qui est très étonnant, donc, c'est un récit qui se passe dans le temple. Ils amènent au temple, on peut imaginer le temple de Jérusalem, je ne sais pas si vous avez déjà eu des films ou des photos, etc. Donc c'est un lieu tout à fait somptueux à l'époque d'Hérode, enfin après à l'époque d'Hérode, il avait fait un temple somptueux, il y avait des sacrifices d'animaux, alors pour nous on a plus beaucoup l'habitude de ça, mais ça se voit pas beaucoup, on n'en voit plus beaucoup. Donc il y avait un rituel de sacrifice, etc. Et d'ailleurs, Marie-Joseph amène donc deux animaux pour le sacrifice. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'ils vont pour faire un sacrifice, c'est qu'on ne nous dit pas qu'il y a de sacrifice, on ne nous parle pas de prêtre, alors que normalement justement on donne les... Et puis voilà, l'offrande, on en parle un petit peu au début, mais finalement ça passe vite à la trappe. C'est très étonnant puisque c'est le centre, normalement c'est ce sacrifice, mais en fait non, il est escamoté. On voit bien que dans le texte que cette idée du sacrifice, elle a disparu. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Jésus finalement, le grand prêtre, le temple, le sacrifice, l'offrande, c'est lui. Et c'est ça finalement qui est à retenir un petit peu de cet évangile. Alors j'avais lu une fois dans une note de Bible, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En fait, le mot porter dans l'original grec, c'est vraiment un mot liturgique, c'est vraiment le porter comme on porte une offrande à l'autel. Donc c'est Marie-Joseph donc, qui présente, en fait c'est lui qui est là, c'est la première fois qu'il rentre dans le temple, mais c'est lui l'offrande, c'est lui enfin, qui sera l'offrande. C'est lui le premier des multitudes, c'est lui qui est le rachat, la source du rachat, c'est lui le grand prêtre. Et dans l'évangile de selon Saint-Luc, c'est frappant, c'est qu'à la fin, quand Jésus monte au ciel, il bénit les disciples qui sont là, et c'est le geste type du prêtre, du grand prêtre. Autrement dit, c'est Jésus qui est le grand prêtre. Alors, à tout cela, on voit que Marie est associée. Hein, puisqu'elle a une prophétie qui est lui donnée par Siméon, et il est dit de Jésus à ce moment-là qu'il sera cause de chute et de relèvement, qu'il sera un signe de contradiction. Donc Marie est associée de manière tout à fait particulière à Jésus, en particulier à son offrande, à son sacrifice. Voilà un petit peu pour notre évangile. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, nous? Donc là, on voit un petit peu quelques petites choses, enfin, quelques grandes choses sur qui est Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur s'offrir au Père avec Jésus, qui est notre thème d'aujourd'hui? Alors, ce qui est remarquable, c'est que Jésus, il est porté, il est offert. En fait, il est passif dans cet évangile. Il est encore un bébé, il est un bébé de 40 jours. Donc ce n'est pas lui qui est l'initiative, il est porté par ses parents. C'est lui qui est l'acteur principal, mais en même temps, pour l'instant, il est offert par Jésus et Marie. Il est reconnu par Siméon et Anne, mais il ne parle pas, un enfant de 40 jours, ça ne parle pas. Et puis on insiste beaucoup sur l'obéissance. Plus tard, toujours par obéissance, par une obéissance aimante à son Père du Ciel, Jésus se livrera, donc il fera l'initiative, il donnera sa vie, il s'offrira, il se dépossédera de lui-même. Mais on voit que dans l'offrande de soi, donc il y a une part de volontaire, voilà je le fais, je veux le faire, et puis après ben, je me livre, je veux dire, c'est, voilà, je me laisse faire. Et peut-être dans cet évangile, ce qu'on peut retenir, s'offrir au Père avec Jésus, c'est plutôt... se laisser faire. D'ailleurs, même la croix, enfin, quand on a le supplice de la croix, enfin, bon, c'est peut-être valable de tous les supplices, mais on perd toute initiative. On est cloué, on n'a plus de gestes, on ne peut plus rien faire, et on est exposé. Alors, comme je disais précédemment, Marie, elle est associée à cette offrande. Alors, aujourd'hui, elle le porte, l'enfant Jésus, au temple, elle l'offre. Et plus tard, on pourrait dire, elle officiera de la même façon au pied de la croix. Souvent, c'est comme ça, on comprend Marie au pied de la croix. Elle n'est pas là comme une pleureuse, etc., qui est en train de se lamenter, mais elle adhère profondément à la volonté de Jésus qui s'offre lui-même. Donc elle l'offre, et puis à la fois, eh bien, y a cette douleur qui tombe sur elle. Un glaive te transpercera l'âme. Mais cette douleur, elle n'est pas sans fruit. Elle est source d'une très grande, de la plus grande fécondité. Ce que je veux dire, c'est que dans le sacrifice, il y a quelque chose. Je suis volontaire, et en fait, après, je m'abandonne. Enfin, je me remets. C'est peut-être, je trouve, ce qui est marquant dans ce qu'on peut retenir un petit peu de cet évangile. S'offrir au Père avec Jésus, en fait, c'est se laisser offrir finalement. D'ailleurs, le mot se livrer, Père Jean insiste beaucoup sur le mot livrer, il s'est livré pour nous, c'est-à-dire qu'il s'est remis. Dans le sacrifice, il y a quelque chose de, voilà, je le veux, et puis après, voilà, que tout se passe en moi selon ce que tu veux. Alors, notre thème, c'était s'offrir au Père avec Jésus dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, alors, c'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent. Donc, dans chaque Eucharistie, nous entendons les paroles: ceci est mon corps, ceci est mon sang livré pour vous. Donc, ce sont les paroles mêmes que Jésus a dites le jeudi saint en vue de sa passion. On pourrait dire, il s'est offert de manière mystérieuse dans le pain et le vin, le jeudi saint, il se donne à chaque fois dans l'Eucharistie. On dit, le sacrifice, il est rendu présent. C'est pour ça qu'on se met à genoux, c'est pour ça qu'il y a une grande solennité dans la messe, parce que c'est le sacrifice même de Jésus dont nous devenons les assistants, auquel nous assistons. Alors non seulement nous y assistons, mais les fruits de grâce qui ont été mérités par Jésus sur la croix, nous sont donnés dans l'Eucharistie. Alors c'est très beau, c'est dans l'Eucharistie aussi. Donc c'est Jésus s'offre sur la croix, et quelque part il se remet entre nos mains, il s'offre entre nos mains, du prêtre d'abord, et puis de chacun d'entre nous. Donc, quelque part il se remet. Vous voyez, c'est quelque part c'est très beau, c'est très fort, Dieu lui-même se met entre nos mains. Enfin, il nous fait une confiance, et puis j'allais dire, on connaît, il y a des histoires de sacrilège, etc., ou de manque de respect. Mais quelque part, Jésus continue à se livrer. Il s'est donné, il se donne. Dans l'Eucharistie, c'est la même chose, il s'abandonne entre nos mains. Alors, pour nous, s'offrir au Père avec Jésus, eh bien, c'est nous unir à ce sacrifice, de rentrer dans cette même attitude. Alors certes, quand on va à la messe, il faut offrir nos bonnes actions, il faut arriver avec nos valises, hein, nos intentions de prière, tout ça, et puis nos sacrifices de la journée. Et en même temps, bon, c'est beau, il faut le faire, c'est bien. Et en même temps, c'est surtout, je me remets, je me donne. Ou plutôt, je me mets à la disposition. Je crois que c'est plus ça. C'est Jésus, en fait, qui est l'acteur principal. C'est pas moi qui fais avec mes efforts, qui va faire des grandes choses, etc. Mais c'est vraiment lui, Jésus, qui fait tout. Donc, autrement dit, quand on va à la messe, il ne s'agit pas de dire, regarde, Jésus, tout ce que je fais pour toi. Regarde, j'ai jeûné, j'ai fait les sacrifices, j'ai supporté ma voisine, j'ai fait des tas de choses, et puis je te l'amène maintenant. Non, c'est pas ça. C'est plutôt Jésus qui nous dit, regarde ce que je fais pour toi. Et c'est vraiment ça le plus important. Alors évidemment, tout ce qu'on fait, ça n'a pas, c'est pas sans importance, mais c'est plutôt nous laisser prendre. C'est donc suivre Jésus et nous laisser prendre dans son offrande. Donc nous livrer nous-mêmes. Alors il y a évidemment un acte de volonté, mais c'est accepter, Jésus, voilà, je te remets tout, prends ma vie. Donc cela signifie que dans l'Eucharistie, c'est vraiment principalement nous remettre, enfin nous mettre à la disposition de Jésus. Prends ma vie, Seigneur, prends toute ma pauvreté. Alors ce sont enfin, qu'est-ce que c'est que cette offrande? ce sont donc tout ce que je peux offrir par mon devoir d'État, mais c'est vraiment aussi tout me laisser prendre. Enfin, notre vie spirituelle, c'est vraiment que Dieu prenne la première place, que ce que lui soit le celui qui fait la plus grande chose. D'ailleurs, c'est lui qui fait la plus grande chose. On peut penser à la prière du pharisien et du publicain. Vous savez, il y a le pharisien qui arrive, qui énumère tout ce qu'il fait. Voilà, je jeûne. C'est extraordinaire, hein, quelqu'un qui est si donné. Et en fait, c'est pas ça l'attitude qu'il faut avoir quand on va prier, quand on va à la messe. C'est « Seigneur, aie pitié de moi. Enfin, c'est « aie pitié du pécheur que je suis. Et agis en moi. » Alors, pour mieux nous disposer encore au sacrifice, mieux nous offrir avec Jésus au Père, unissons-nous à Marie. Donc c'est marquant donc, que dans cet évangile de l'enfance, il y ait une prophétie qui soit faite à Marie, en particulier justement sur ce sacrifice qui est annoncé. Cet enfant doit causer la chute et le relèvement de beaucoup, devient un signe de contradiction. Donc Marie est associée à ce mystère de manière particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle s'est mise complètement à la disposition de Dieu. Et c'est elle qui a le mieux compris, le mieux entré dans le sacrifice de Jésus. En se faisant toute disponible. Donc suivons son exemple. Amen.